Très bonne journée à l'écoute de France Culture. Nous retrouvons Olivia Gesbert. Olivia, bonjour.
Bonjour, et je vous donne l'heure tout de suite puisqu'il est midi sur France Culture. Tout de suite, on va faire un point sur les titres avec vous, Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Jean-Claude Juncker tente de relancer l'idée européenne. Discours annuel sur l'état de l'Union ce matin à Strasbourg, où il propose de doubler la capacité de son plan d'investissement et de créer par ailleurs un quartier général de défense unique pour toute l'Union européenne. Compte rendu de ce discours optimiste avec Anya Vogel tout à l'heure. Rapport accablant d'une commission parlementaire britannique sur l'intervention anglo-française en 2011 en Libye. La stratégie du Royaume-Uni fut fondée sur des postulats erronés, peut-on lire, et sur une analyse partielle des preuves. Précision avec Antoine Gignot à Londres. Shimon Peres, dans un état critique toujours ce matin, après un accident vasculaire cérébral majeur, communiqué médical rendu public il y a quelques heures, l'ancien président se trouve dans un état critique mais stable. Mobilisation des infirmiers aujourd'hui. Coordination nationale appelle tous les soignants à faire grève pour dénoncer les conditions de travail à l'hôpital, reflétées par notamment le suicide de 5 infirmiers cet été. La primaire à droite, on en dira un mot avec l'interview dans Valeurs Actuelles d'Alain Juppé qui s'interroge. Comment gouverner dans le clivage en montant les Français les uns contre les autres? Hier à Strasbourg, il a repris son thème de l'identité heureuse, on l'entendra. Et le commentaire de Stéphane Robert, l'invité de l'ABCDR de la campagne aujourd'hui. F comme finance ou comme Fillon, avec le député Les Républicains du Loiret, Serge Grouard, qui est un proche de François Fillon. Voilà pour les titres, c'est à vous maintenant Olivia Gesbert, la grande table.
Première partie. Bonjour à tous. Comme un mercredi, on se passe un petit coup de fil dans la deuxième partie de l'émission Téléphonez-moi. Nous recevons ce midi Frédéric Tourdoir sur la pierre, critique littéraire qui signe aux éditions de Minuit un ouvrage sur le rapport que nous entretenons au téléphone et qui se dévoile notamment ce rapport au prisme du mythe de Narcisse et Écho. Face à notre dépendance au smartphone, faut-il décréter l'état d'urgence? L'essayiste dialoguera avec le philosophe italien Maurizio Ferraris qui appelle en cette rentrée à la mobilisation totale aux presses universitaires de France. Et puis en première partie de la grande table, il dirige l'opéra Elio Gabalo de Francesco Cavalli, mise en scène par Thomas Joly à l'opéra Garnier, le chef d'orchestre Leonardo Garcia Alarcón et notre invité baroque. Bienvenue à tous en direct ou en podcast sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Misérable Alessandro, voilà à quoi est réduit celui qui t'a fidèlement adoré. Chef d'orchestre argentin, passionné de musique baroque, fidèle quant à lui, fondateur et directeur de l'ensemble Capella Mediterranea. Vous dirigez actuellement la nouvelle création de l'Opéra de Paris, mise en scène par le jeune Thomas Joly, Elio Gabalo, un opéra sulfureux, orgiaque, décadent, temps fort de cette rentrée lyrique. Avec entre autres le contre-ténor Franco Fagioli et la soprano Mariana Flores, tous deux Argentin. L'Argentine est réunie à l'Opéra Garnier cette semaine. Dites donc, ça va être pas mal. À voir, à écouter jusqu'au 15 octobre. Bonjour Leonardo Garcia Alarcón.
Bonjour.
Un grand merci d'être avec nous.
Merci.
Il va falloir donner de la voix, vous allez voir, dans cette émission. À quelques heures de la générale, à deux jours de la première, est-ce que les choix sont faits? Tous les choix sont faits? Est-ce que tout est tranché? Est-ce que vous ne toucherez plus à la partition?
Non, absolument pas. La partition, elle a été, bien sûr... On a découvert cela, bien sûr, à Saint-Marc, à Venise. La partition a été connue dès 1999 seulement. En 2004 aussi, il y a eu une production au Théâtre de la Monnaie.
Elle date de 1667. Hein.
Ah oui, 1667.
Et on la connaît ou on la reconnaît qu'en 1999.
Exactement.
Mais qu'est-ce qu'elle a fait tout le reste du temps? Elle a dormi?
Alors généralement, dans l'histoire de l'opéra, les opéras dormaient après avoir été créés. C'est-à-dire c'est des cas très particuliers et seulement au XXe siècle, qui on commence avec Mozart, bien sûr, plus tard avec Monteverdi et les opéras de Wagner, bien sûr, ont continué toujours à être joués. Mais l'opéra ancien, l'opéra baroque, et surtout l'opéra du XVIIe siècle, reste encore dans les archives et des fois pas édité. C'est le cas des opéras de Francesco Cavalli qui commencent à être édités peu à peu. Monteverdi est connu par ses trois opéras, les maîtres de Cavalli, mais aujourd'hui on commence justement à jouer Cavalli, parce qu'il commence à être édité, connu, et c'était Elio Gabalo fait partie de cette résurrection.
Alors, Elio Gabalo, un opéra en trois actes, qui l'a exhumé?
Alors, en 1989, il y a eu une production, déjà, en Italie, et René Jacobs l'a vraiment exhumé en 2004, au Théâtre de la Monnaie, avec une très très belle production.
À Bruxelles.
À Bruxelles, oui, exactement. Et aujourd'hui, on l'a donc pour la première fois justement en France et c'est l'entrée aussi à l'Opéra de Paris. Ça veut dire un compositeur qui était tellement important pour la France aussi. On ne doit pas oublier que Louis XIV, en 1662, lors de son mariage, il appelle Cavalli pour composer l'opéra L'Hercule amoureux pour ses noces. Alors, étaient les compositeurs les plus prestigieux au monde. Alors, c'est une histoire avec la France aussi qui a Francesco Cavalli, qui n'a pas pu continuer après parce que Lully, le grand compositeur de roi, a pris la place et il a inventé l'opéra en français. L'opéra français, c'est la tragédie lyrique. Cavalli a dû retourner à Venise avec son grand chagrin.
Ouais.
Oui, bien sûr. Alors, c'est là qu'aujourd'hui est un moment historique, justement, de cette entrée de ces compositeurs, justement, au répertoire de l'Opéra de Paris.
Alors, Elio Gabalo, on va quand même raconter cette histoire-là, pas celle de Cavalli avec la France, mais l'histoire aussi de cet opéra. C'est quand même la satire hein, du règne de l'empereur Elio Gabal, empereur romain, connu pour ses excès en tout genre, ses frasques. C'est un jouisseur insatiable qui se croit tout droit sorti de la cuisse de Jupiter et qui d'ailleurs a très mal fini. Il finira lynché par la foule. Sa dépouille sera jetée dans le Tibre. Dans l'opéra, il chante « Quelle promesse, quelle parole, quel serment, la parole que je ne respecte pas, à qui renom et prestige, et quand je viole une loi, c'est tout à son honneur. » Ça, j'adore. Quel affreux bonhomme, non?
Alors, oui, c'est un enfant, en fait. Et il était empereur à l'âge de 14 ans et on l'a tué à l'âge de 18 ans. Alors, on voit que c'est un enfant qui est au pouvoir, tous les désirs sont là, et surtout, il vient d'une autre culture, il vient de la Syrie, et il impose ses dieux, sa religion. Il fait adorer le soleil, il abolit l'adoration des dieux romains, et il accepte de se présenter habillé en femme et couronner empereur en esclave, qu'il aime surtout par ses qualités sexuelles, et qui après va devenir l'empereur qui abolit les sénats d'hommes. Alors on peut imaginer, Elio Gabalo a créé un sénat des femmes, qui est il est décrit même, fait partie de l'histoire à l'opéra aussi de Cavalli par les librettistes. Alors c'est très difficile à imaginer aujourd'hui qu'un personnage comme ça a existé à Rome, parce qu'on pense que César a été tué au Sénat et avec des intrigues incroyables entre hommes. Alors cet empereur de 17-18 ans, il a aboli les Sénats d'hommes et on voit tous ses enjeux, il est bisexuel, il admet sa bisexualité. Alors pour beaucoup de personnes, entre lesquelles Antonin Artaud, justement, qui a écrit ses livres extraordinaires, justement, Elio Gabal, l'anarchiste couronné, justement, montre qu'il était quelqu'un qui anticipe, justement, des 2000 ans, tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans notre société.
D'où le choix d'un contre-ténor, Franco Fagioli. Ben, ça n'a pas toujours été le cas. Hein.
Et à l'époque, c'était un castrat. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de castrat. Mais depuis 20 ans, on a des voix vraiment très aiguës. Et on les appelle sopranistes aujourd'hui. Ça veut dire d'hommes qui peuvent chanter dans les registres d'une femme. Alors, cela est formidable parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment retrouver ces taches de castrat, ces taches d'or qui a marqué le XVIIe siècle.
Mais dans la version de René Jacob,
c'était des mezzo-soprano. Mais justement, il y a 15-20 ans, on n'avait pas encore ces registres des voix tellement aigus. Il y avait des contre-ténors, mais qui chantait un tout petit peu plus grave dans un registre d'alto à l'anglaise. Mais c'est pour cela que les choix étaient vraiment un autre choix de mezzo-soprano, ça veut dire des voix des femmes qui chantent ces rôles. Mais aujourd'hui, heureusement, on peut avoir des rôles masculins qui font ces rôles masculins.
Et alors vous, justement, Leonardo Garcia Alarcón, c'est pas la première fois que vous vous attaquez au répertoire de Francesco Cavalli, allant jusqu'à solliciter des metteurs en scène, comme en 2013 avec Elena pour le Festival d'Aix, avec une mise en scène de Jean-Yves Ruff. Pour Elio Gabalo, c'est vous qui avez pensé à Thomas Joly, ou le contraire, à moins que ce soit Stéphane Lissner, le directeur de l'Opéra de Paris, qui vous ait réuni tous
alors,
les deux.
Alors, Stéphane Lissner a vu des spectacles de Thomas Joly et il m'en a parlé. Et plus tard, j'ai vu, bien sûr, son Richard III et à l'Odéon. Et j'ai compris absolument que sa manière de traiter, et lui-même comme acteur, la manière avec laquelle lui, il incarnait ses Richard III, convenait absolument à pouvoir aussi traiter de la même manière cet Elio Gabalo. Alors, aussi, j'aimais beaucoup la vitesse de ces spectacles, la manière de traiter la lumière, la modernité. C'est vraiment un artiste du 21e siècle qui donne vraiment des choses nouvelles au rythme de l'opéra. Et c'est cela qui était très stimulant de la proposition de Stéphane Lissner.
Mais l'idée de créer Elio Gabalo, de qui vient-elle? Qui sème la petite graine, le projet?
L'idée
comment est
de créer Elio Gabalo, c'était une idée qu'on a concoctée avec Stéphane Lissner aussi, parce qu'il m'a connu en train de diriger Elena de Cavalli à Aix-en-Provence. Et alors on a beaucoup discuté sur la possibilité d'entrer justement à l'Opéra de Paris avec ces grands compositeurs, parce qu'on ne comprend pas comment encore on n'a pas créé un opéra un chef-d'œuvre comme Elio Gabalo et surtout de Francesco Cavalli dans cette maison.
Alors le mariage est très réussi entre la musique et le jeu, le drame. Comment vous avez travaillé ensemble concrètement avec Thomas Joly?
Alors c'était un travail passionnant autour du texte, à table, vraiment, sans musique. Au début on s'est réunis avec toute son équipe. On a lu tous les textes en français avec toute la troupe de la Piccola Familia. Et plus tard, les chanteurs sont arrivés et on a fait exactement le même travail. Ça veut dire que toutes les répliques étaient travaillées sans la musique. Et pour comprendre vraiment bien les enjeux, alors il y a eu un travail théâtral très très important. Et c'est là, ça a traduit à la musique après. Et aujourd'hui, vraiment, il y a une importance du texte qui est essentielle à cette époque. On ne doit pas oublier qu'au XVIIe siècle, on parlait des comédiens et pas des chanteurs. Et c'est là on l'a oublié, bien sûr, dans l'opéra du 19e siècle. Alors, ce travail était pour
d'ailleurs,
moi...
D'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais c'est vrai que c'est un opéra qui a quand même quelque chose du théâtre chanté, qui est très bavard, quelque part, non?
Alors, oui, absolument, parce que le 17e siècle crée cela, et on est dans la commedia dell'arte encore. Ça veut dire que, pour les Italiens, il n'y a pas de différence entre texte et musique. Pour eux, c'est la même chose. C'est-à-dire, l'italien, c'est la meilleure langue pour chanter. On ne peut pas chanter dans une autre langue. Et c'est là qu'on pense. Ça veut dire que l'opéra peut être seulement italienne. C'est seulement plus tard qu'on va créer un opéra dans d'autres langues. Alors, c'est pour cela qu'à ces moments-là, créer l'opéra en Italie, c'est vraiment du théâtre. Et c'est vraiment revenir à la tragédie grecque comme spectacle total. Justement.
Alors si le texte a autant d'importance, quelle place va prendre du coup la partition musicale? Elle va soutenir, elle va accompagner le texte, elle va essayer de créer un dialogue avec lui?
Alors nous, on a beaucoup d'instruments qui accompagnent, que c'est comme les pianos ou une guitare électrique dans un groupe pop aujourd'hui. C'est-à-dire c'est la basse continue, c'est-à-dire beaucoup d'instruments qui accompagnent les chanteurs. Et eux, les chanteurs, retrouvent les moteurs dans ces instruments, parce que la partition ne marque rien. La partition marque les textes, la voix qui chante, et aucun instrument est spécifié. Alors nous, on doit recréer toutes les couleurs. C'est exactement comme une reconstruction picturale. On doit ajouter les couleurs pour les émotions. Mais la musique a vraiment un rôle très très important, et surtout dans les serres, dans les duos, dans les quatuors, dans les chœurs. Alors vraiment, c'est un spectacle total de ce point de vue.
Bon, bah alors il est sympa le metteur en scène Thomas Joly ou pas?
Bien sûr, avec lui, on forme une équipe formidable.
Une belle équipe, un beau duo. Oui. Maintenant que vous avez répondu à la question, l'imbrication texte et musique, ce qu'en dit de son côté justement Thomas Joly, il était au micro de France Musique. Voyons voir si vos deux versions coïncident ou si elles se contredisent.
Leonardo Garcia Larcón a beau être épaté, mais je crois que c'est lui aussi qui me permet ça. C'est-à-dire qu'il a été un chef très ouvert et très dans la coopération théâtrale. Il aime le théâtre. Il est d'ailleurs venu voir Richard III. Et puis, il m'a dit, voilà, je suis à ton service, la musique doit être... je peux réarranger les tempi, je peux les forces, les variations, etc. avec toi. Donc, en gros, il me demandait presque d'interpréter le texte en acteur et il retravaillait la musique en fonction de ça. J'ai aussi fait lire le livret par des acteurs pour qu'on puisse en saisir les enjeux par le parler, par le théâtre. Et ça, Leonardo Garcia Larcón était là à chaque fois, très intéressé et très en train de repenser sa musique par rapport à la théâtralité. Donc, on cherche avec les chanteurs à ne jamais avoir un trou, non pas un trou de texte, mais un trou d'espace ou un trou de corps ou un trou de gestuel ou un trou de pensée, parce que on chante mais on pense. C'est quand même de la pensée en musique, et c'est ça qu'on a essayé de faire depuis toutes ces semaines de répétition.
De la pensée en musique, Leonardo Garcia Larcón. Ça vous convient ?
C'est exactement cela. Ça veut dire que pour un chanteur, interpréter une pièce de Mozart où tout est vraiment écrit, c'est-à-dire Mozart déjà montre ce qu'on appelle les affetti extrinsèques, c'est-à-dire tout est déjà à l'intérieur de la partition. Ici, vraiment, on doit être dans la force de la pensée pour recréer les émotions. Et ressusciter des émotions ou ressusciter un compositeur ou un poète de l'époque, et c'est peut-être le plus grand miracle d'un artiste, ça veut dire pouvoir ressusciter des émotions qui ne sont plus là, pouvoir les ressentir pour les rendre vivantes et qui puissent parler au public d'aujourd'hui. Alors, quand Thomas Joly parle des pensées, c'est vraiment cette pensée liée aux émotions et aux émotions contraires. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vit dans une société très cartésienne. Et à l'époque, vraiment, deux émotions contraires, ou quatre, ou six, pouvaient être ressenties dans l'espace de 10 secondes par un même personnage. Et c'est vers ces mondes qu'on doit se diriger.
Alors sur cette idée de complicité, de partage, voire de vase communicant, il y a justement une scène qui se prolonge jusque dans la fosse, des comédiens qui traversent l'orchestre pour rejoindre les coulisses ou pour arriver sur scène. Et cet effet de mise en scène, est-ce qu'il apporte quelque chose pour vous, pour les musiciens ?
Pour nous, c'est très fort. C'est un grand défi parce que l'orchestre est divisé en deux. Alors vous pouvez imaginer que c'est un grand défi d'écoute déjà. Mais voir arriver les personnages vers nous, c'est déjà les profondeurs, c'est-à-dire des fois c'est les enfers, c'est tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est l'ombre où la fosse se trouve. Alors vraiment, quand on voit sortir et arriver des personnages, il y a une grande pulsion justement que l'orchestre ressente et l'orchestre sent justement que fait partie du spectacle, et ça c'est formidable.
Invité de la première partie de La Grande Table, le chef d'orchestre Leonardo Garcia Larcón, qui dirige l'opéra Elio Gabalo, qui débutera première ce vendredi jusqu'à la mi-octobre à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier. Il est midi 18 sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Leonardo Garcia Alarcón. Cette œuvre de Cavalli, elle est assez décadente et elle est présentée d'abord dans des théâtres vénitiens. Est-ce qu'elle était d'ailleurs, il était en phase avec son époque au moment où il présente
Alors oui, absolument, parce que à Venise, à l'époque du carnaval, c'est un moment où toutes les lois éthiques, morales sont abolies. Ça veut dire qu'on fête vraiment et il y a un mélange des classes sociales qui n'existe plus aujourd'hui à l'opéra moderne, où vraiment l'opéra, dans beaucoup de cas, c'est quelque chose de très élitiste. À l'époque, tout le monde à Venise va à l'opéra et tout le monde est masqué. Personne ne sait avec qui il est, qui est à côté. Alors vraiment, c'est un moment unique. Parce que vraiment, on peut dire qu'au moment du carnaval, n'importe qui, par exemple Cavalli, qui était aussi un maître d'église, un maître de chapelle à San Marco de Venise, peut composer sur des thèmes vraiment amoraux, comme celui de Elio Gabalo ou Monteverdi de l'Incoronazione di Poppea, à parler de Néron. Alors aujourd'hui, ça serait très mal vu, et surtout à Rome, aurait été interdit, ils auraient été excommuniés. Vraiment pour cela à l'époque, mais on sait à quel point Venise et Rome toujours ont eu une grande rivalité, et Venise provoque vraiment les papes, la papauté, et avec ce thème, toujours, on se met contre les pouvoirs politiques du pape.
Mais c'est aussi effectivement un opéra très festif. Hein. Vous l'avez évoqué, je trouve que c'est important de le rappeler. Il y a aussi cette grande scène du banquet, cette orgie. Il y a énormément de personnages sur scène. Et d'ailleurs pour vous, peut-être que tout l'art de la direction, c'est justement de pouvoir jouer sur ces changements de registre, à la fois vocaux, sentimentaux, en tentant d'harmoniser le tout. Le fait du prince, le bal des courtisans, les jeux de pouvoir, la duplicité. Vous évoquiez aussi un texte assez politique. Est-ce que Elio Gabalo peut encore nous interpeller aujourd'hui pour vous?
Je pense que oui, parce que qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui avec un personnage comme ça qui s'installerait au pouvoir?
Il finirait assez mal aussi, je pense.
Exactement, exactement de la même manière. Et c'est arrivé il y a 2000 ans et vraiment ça a fini mal d'une certaine façon, c'est-à-dire on l'a assassiné. Et comme on fait beaucoup avec des sons politiques de cette époque. Et toujours, c'est par l'argent qu'il calme ses troupes. Mais quand il n'a plus d'argent, il ne peut plus les calmer. Alors vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Ça veut dire, quel rapport on aurait avec la tolérance d'une autre religion? C'est-à-dire, avec quelqu'un qui, au pouvoir, reconnaît qu'il est bisexuel, qu'il aime se travestir, et qu'il crée un Sénat en donnant beaucoup plus de pouvoir aux femmes. C'est-à-dire, tout cela, aujourd'hui, de quelle manière serait traité par notre société? Ça nous interpelle, bien sûr.
Écoutons-le, il a beaucoup de choses à nous dire. Elio Gabalo, interprété par Franco Fagioli, acte 3, scène 6. Il y a vraiment des voix magnifiques dans cet opéra, celle de Franco Fagioli qu'on entend actuellement, celle aussi de Mariana Flores qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous diriez, vous, Leonardo, que les voix, ce sont vraiment elles, les stars de cet opéra, plus que les instruments peut-être, plus que l'orchestre?
Bien sûr, c'est les personnages. Ça veut dire, les instruments, c'est l'aura des chanteurs. C'est vraiment l'aura qui les entoure. Et on est au service justement du pouvoir d'évocation d'une émotion d'un personnage. Et c'est là les instruments. La musique instrumentale au XVIIe siècle ne formait pas une partie importante. Encore, c'était seulement les textes qui étaient importants. Alors on les rappelle et on se rend compte, bien sûr, dans ce type d'œuvre. Et c'est vrai qu'à l'opéra, c'est les chanteurs, c'est les solistes qui sont tous formidables, bien sûr, qui incarnent ses rôles d'une manière incroyable. Dans cet Elio Gabalo de Franco Fagioli, par exemple, on ressent cette force de cet enfant capricieux qui ne comprend absolument rien de ce qu'il est en train de faire, et vraiment dans sa manière de faire et de traiter sa voix et de nous parler, et dans la manière de chanter, on ressent cela aussi chez Franco. C'est un travail d'acteur énorme qu'il a fait, et vraiment on ressent toujours cette résistance vers tout ce qui l'entoure. Alors ça, c'est formidable pour moi. J'aime beaucoup sentir cette résistance des chanteurs, entre chanteurs chefs, entre chanteurs et orchestre, pour toujours être à l'écoute justement du drame, de ce qui est dit.
À la fois très instinctif et très animal, quelque
oui,
part.
C'est
vous
là,
dites enfant, mais il a quand même un mot quand même de l'orchestre de votre formation. Qu'a-t-elle de si baroque? On y retrouve quand même d'étranges instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, hein, notamment l'archilute, le théorbe. J'arrive même pas. Oui. Racontez-nous.
Oui, alors c'est des instruments qu'on connaît moins, mais c'est de la famille. Pour les gens qui ne connaissent pas les instruments de cette époque, on pourrait dire que la guitare d'aujourd'hui, à l'époque, c'était des luths, qui c'est un instrument luth, un instrument qui vient justement du nord de l'Afrique et qui plus tard va devenir les luths. Et l'archiluth, c'est simplement un grand luth.
Ouais, avec un plus long manche.
Encore plus grand.
Le théorbe, c'est pas italien ?
Le théorbe, oui, c'était très utilisé en Italie. Il faut savoir que c'est la famille des luths. Et quand un instrument est plus grand, il est plus grave. Quand il est plus petit, il est plus aigu. C'est comme ça. Alors c'est pour ça qu'on a toute la grande famille, plus l'harpe, plus le clavecin, plus l'orgue, plus le régal. Tous les instruments qui accompagnent, le viol de gambe, exactement.
Ça c'est les incontournables pour une formation, pour un opéra baroque.
Baroque, ouais, hein, absolument.
Absolument. Oui. Un parcours baroque, le vôtre, en quelques mots. Vous avez vraiment débuté ce parcours au conservatoire de Genève ou bien avant en Argentine ?
En Argentine, c'était impossible parce qu'il n'y avait pas de clavecin. Et la seule chose que j'ai pu faire en Argentine, c'était... de recevoir des cadeaux de ma grand-mère qui m'offrait des cassettes avec de la musique, des compositeurs. Et quand j'avais 8 ans, j'ai reçu tout cela et j'ai dit à mon père, j'aime Bach. Et Bach vraiment m'a marqué. Et c'est autour de la musique baroque et de ces cadeaux de ma grand-mère que j'ai commencé à faire de la musique, à m'intéresser. Et plus tard, à 18 ans, j'ai annoncé à mon père que j'étais parti en Europe et que je voulais aller à Genève.
Mais alors avec quel instrument sous le bras ?
Donc clavecin. C'était le clavecin. C'est-à-dire, j'avais aucun instrument sous le bras. Je venais de découvrir en Europe l'instrument. En Argentine, j'ai joué dans un piano et j'ai mettais vraiment un enregistrement et j'ai accompagné des orchestres et des chœurs avec mon piano. C'était la seule manière de pouvoir jouer avec des orchestres européens. Et le rêve a été fait plus tard quand j'étais accepté au Conservatoire de Genève, où aujourd'hui je suis professeur, heureusement.
Et il y a l'orgue aussi. Alors l'orgue, vous l'apprenez vraiment où, en Suisse ?
Et en Suisse aussi, bien sûr.
Et dans des temples, dans un temple protestant ?
Oui, j'étais organiste pendant 8 ans, dans des temples calvinistes. Et c'est plus que luthérien, c'est là, ça veut dire les calvins, et tout ce qui signifie la discrétion des Genevois. Et alors j'ai appris à aimer cela, ça veut dire à quel point... on doit s'adapter encore à un type d'utilisation de la musique au culte. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, des fois, quand on joue du Bach, quand on joue du Mozart, aussi des pièces religieuses, dans quel contexte. Mais quand on est organiste, on sait exactement pourquoi telle musique, les sens, on retrouve. Et cela peut être après transposé à l'opéra, par exemple.
Oui, vous avez dit quelque part, c'était très beau, cette idée du cycle de la vie. Voilà ce qu'on peut aussi apprendre dans une église ou dans un temple protestant. là encore, pour un chef d'orchestre comme vous. On dit de vous aussi, Leonardo Garcia Larcón, que vous avez contribué à dépoussiérer, ce grand mot, hein, la musique baroque. Pourquoi elle avait tant besoin d'être réhabilitée ? Est-ce qu'il y a encore... Elle a encore aujourd'hui beaucoup à nous faire entendre de choses actuelles pour vous ?
Je pense que, des fois, on exagère, ça veut dire de Gustave Léonard, Nicolas Harnoncourt, Franz Bruggen, ils ont fait des choses extraordinaires pour redécouvrir cette musique. Simplement, la génération qu'on est en train de vivre avait soin de le faire d'une manière peut-être plus simple, et dans le sens où on doit aller dans les traités à chercher absolument tout ce qui nous ramène vers ce monde, mais le faire d'une manière très très naturelle. Surtout, notre approche vers l'opéra, ça doit être vraiment l'importance du théâtre. Et avant tout, et pas seulement avec quels instruments on accompagne, ou vraiment quel traité on a lu, on doit aller vraiment à l'importance du texte.
Et alors, pour vous rattacher à quelques grands compositeurs, on citera Zamponi, Falvetti et bien sûr Monteverdi, que vous adorez, on va se quitter quand même encore avec quelques notes de... Thank you. Attilia, interprétée par Mariana Flores, véritable star, elle aussi du casting soprano argentine baroque qui habite en France. Elle joue Attalia, l'amoureuse et conduite d'Alessandro, avec un magnifique lamento au début de l'acte 2. Acte 2, scène 2, c'était un extrait, un dernier, d'Elio Gabalo de Francesco Cavalli, mise en scène actuellement par Thomas Joly, orchestré, dirigé par vous, Leonardo Garcia Alarcón, à l'Opéra Garni, à l'Opéra de Paris. Un grand merci d'être passé par nos
merci
studios.
Merci vraiment.
À suivre dans la grande table, votre téléphone portable, vous ne le regarderez plus jamais pareil après la deuxième partie de l'émission. Invité le philosophe Maurizio Ferraris et la critique littéraire Frédéric Tourdoir sur la pierre. Merci.